matin à tous. Bonjour à tous. Merci à l'équipe de Louange. Mon nom est Dominique. Je suis un des pasteurs ici à l'Église Le Sentier. C'est moi qui vais apporter le message ce matin. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier pour Sébastien. Sébastien Dienning, peut-être que vous avez vu cette semaine la nouvelle. Sébastien a eu un diagnostic de leucémie. Donc, une nouvelle difficile pour Sébastien, pour la famille. Plusieurs mois de chimiothérapie devant lui. Donc, Sébastien, on veut prier pour toi ce matin. On veut prier avec toi. On veut prier pour toute la famille. Donc, j'aimerais ça, Église Le Sentier, qu'on puisse se courber et qu'on puisse garder la famille Dienning dans nos prières. Courbons-nous ensemble. Seigneur Jésus, on veut te remettre Sébastien entre tes mains aujourd'hui. On sait qu'il est déjà entre tes mains, que tu es avec lui. Je te prie que tu puisses le protéger, que tu puisses le garder et lui donner ta paix, Seigneur. On te prie, Jésus, que tu puisses être avec lui au travers tout ce long combat contre cette maladie qui commence, et on te prie que tu puisses vraiment, Jésus, lui donner la paix. Et on te prie pour le corps médical. On te prie pour toutes les décisions qui doivent être prises. Notre désir, Seigneur, et on te le demande dans ton nom, c'est que tu puisses guérir Sébastien. On te prie d'être avec Nancy et Anton, les enfants, que tu puisses les accompagner de tes mains, de tes bras d'amour, Seigneur, pendant cette période d'épreuve. Sois avec eux, Seigneur Jésus, et que l'Église Le Sentier, on puisse être une famille pour cette famille dans ces temps difficiles. C'est notre prière, Seigneur, et je te prie vraiment que tu puisses accompagner cette famille dans ces temps d'incompréhension, ces temps difficiles. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. Donc, on continue à prier pour vous, la famille Dienning, et puis l'Église, on est une famille, n'est-ce pas? Et quand un membre de la famille souffre, on veut souffrir, on souffre avec la famille. Donc, aujourd'hui, on veut certainement pouvoir être avec vous. Et Sébastien, on prie pour toi à tous les jours. Donc, ce matin, Marie-André parlait on a vu un témoignage de missionnaire. Et puis, Marie-André nous parlait de la mission. On a vu la semaine passée une histoire missionnaire. Aujourd'hui, on a eu le témoignage des Gamaches au camp des Bouleaux. Et Patrick a dit quelque chose d'intéressant, que quand on pense à un missionnaire, oui, on peut penser à des gens qui sont en mission partout dans le monde, dans des pays. On connaît des missionnaires qu'on supporte ici, dans plusieurs pays du monde, des missionnaires qu'on supporte au Québec même. Mais Jésus nous a donné une mission à tous et chacun, qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, quand on pense à la mission, quand on pense à être un missionnaire, d'être envoyé par Jésus pour annoncer pour la bonne nouvelle de Jésus, pour témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies, dans ce sens, l'Église Le Sentier, chaque croyant, nous sommes des missionnaires appelés à être en mission là où nous sommes. Et c'est ce que nous voyons ensemble dans notre série sur le livre des Actes, notre série « Envoyés », où on regarde ensemble l'Église avec la puissance du Saint-Esprit qui est envoyée partout dans le monde, qui est envoyée là où elle est pour témoigner de l'œuvre de Jésus dans sa vie. Et quand je pense à mon rêve, à moi personnel de la mission, il y a quelques années, quelqu'un m'avait raconté l'histoire il y avait une personne dans sa famille qui était missionnaire. Et il regardait tous les sacrifices que le membre de sa famille avait fait pour devenir missionnaire. Tous les sacrifices qu'elle avait faits. Et il s'est dit, elle a laissé son travail, elle va laisser sa famille parce qu'elle s'en va dans un autre pays, elle doit apprendre une nouvelle langue. Beaucoup de sacrifices à faire pour témoigner, partager le nom de Jésus. Et cette personne-là a dit, « Moi, je suis ici au Québec, dans la culture où je suis né, mais je veux vivre la vie que le membre de ma famille va vivre. Je veux vivre cette vie de sacrifice pour l'Évangile. » Et cette parole a toujours resté collée avec moi. Je me suis dit, Seigneur, à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, je veux être un missionnaire à mon travail, dans mon quartier, à l'école. J'étais aux études à ce moment-là. Je veux être un témoin de Jésus là où je vais être. Et ça, c'était vraiment le rêve que Dieu avait mis sur mon cœur. Je me posais la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être missionnaire si on ne change pas de pays, si on ne change pas de culture? Et je me suis dit que ce que je voudrais, c'est avoir des relations avec les gens autour de moi. J'aimerais ça partager le message de l'Évangile. J'aimerais à tout le moins partager comment Jésus a transformé ma vie avec les gens autour de moi qui ne connaissent pas Jésus. Vous savez, on vit au Québec dans une province où il y a moins de 1% de la population qui croit que Jésus-Christ est son sauveur, qui croit en Jésus comme son sauveur. Donc, j'avais ce rêve, j'ai ce rêve, mais en même temps, j'aimerais vous partager l'angoisse qui vient avec ce rêve bien souvent quand que je parle de ce désir de partager ma foi avec les autres, quand je parle de ce désir de voir Jésus transformer notre ville, transformer notre province, transformer le monde dans lequel on vit. Il y a autant que ce rêve, il y a ce qu'on pourrait appeler peut-être la vie chrétienne idéale où on est en communion avec Dieu, on partage notre foi régulièrement. Mais en même temps, à chaque fois que je parle d'évangélisation, donc de parler de Jésus, de parler de ma foi avec les autres, il y a cette angoisse qui vient. Et dans mon cas, à moi, une des raisons, dernièrement, dans la dernière année, je réfléchissais à ça, puis je pensais à mon voisinage. Puis à un moment donné, il y avait cette parole en dedans de moi qui venait quand je priais pour mon voisinage, quand je pensais à mon voisinage, cette parole qui me disait « Ces gens-là ne sont pas intéressés à entendre le message de l'Évangile. » Ces gens-là ne sont pas intéressés à parler de Jésus avec toi. Alors que parfois, il y a ce rêve, il y a cette excitation-là, mais ensuite, on regarde le monde dans lequel on vit qui ne semble pas intéressé à l'Évangile, qui ne semble pas intéressé à poursuivre les valeurs du christianisme. On voit toutes les difficultés qui peuvent venir et on se dit, il y a comme cette difficulté, cette angoisse, on se dit que, est-ce que ça donne quelque chose de faire ça? Et on se pose ces questions-là. Quand on parle d'évangélisation, il y a certainement plusieurs difficultés qui nous viennent en tête. Et j'aimerais ça en énumérer quelques-unes que j'ai trouvées en faisant des recherches ou celles en parlant avec des gens. Mais certaines difficultés qui ont été mentionnées par rapport à l'évangélisation, c'est que pour plusieurs personnes, quand on parle de parler de Jésus, quand on parle de la foi, de parler de l'Évangile avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, bien, pour plusieurs personnes, les moyens qu'ils connaissent pour parler de Jésus semblent complètement déconnectés de leur réalité puis la réalité de ceux qui ont besoin de l'entendre. J'ai déjà vécu ça où j'étais en discussion avec quelqu'un, on parlait de toutes sortes de choses, on parlait même de la foi. Et du moment où je lui ai partagé l'Évangile, où il avait besoin que je lui partageais son besoin de connecter avec Jésus parce qu'il était pécheur, parce qu'il s'était détourné de Dieu, c'est comme si il y avait une déconnexion. La personne ne comprenait pas ce que je disais. Elle ne voyait pas le besoin qu'elle avait de connecter avec un Dieu dans lequel elle ne savait même pas s'il existait, dans lequel elle ne savait même pas qu'est-ce que je voulais dire quand je parlais de péché. Il y avait une déconnexion entre le message que je lui parlais puis entre ce que la personne ressentait qu'elle avait besoin. Peut-être que quand on parle d'évangélisation, toi, ce que tu entends ce matin, c'est que l'évangélisation dans l'histoire a fait beaucoup de mal aux gens parce qu'il y a souvent il y a des peuples qui sont venus puis ils ont imposé la religion à des personnes au détriment de ces personnes-là. Et dans ta tête, quand on parle d'évangélisation, tu vois cette action-là d'imposer la foi, d'imposer la religion à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on a de la difficulté avec l'évangélisation simplement parce qu'on manque de compassion envers les autres. Peut-être parce qu'on ne connaît pas beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus et on manque de compassion, d'amour. On ne voit pas l'importance de partager la foi avec les gens autour de nous. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas de réponse aux questions que les gens se posent. Tu ne te sens pas assez équipé pour répondre aux questions que les gens se posent. Alors, tu ne vas pas oser faire le pas de parler de ta foi aux autres parce que qu'est-ce que tu vas faire quand ils vont te poser une question dont tu n'auras pas la réponse? Peut-être que c'est parce qu'on est préoccupé par plein d'autres choses dans nos vies. Et on oublie tout simplement, on n'est pas préoccupé par le besoin de partager notre foi. Et je ne suis pas ici en train de nous culpabiliser, mais je suis en train d'expliquer peut-être pourquoi on vit une angoisse, une difficulté quand on pense à l'évangélisation. On vit dans un monde où proposer l'exclusivité de Jésus, c'est-à-dire seulement Jésus peut nous sauver, seulement Jésus peut nous rendre droit avec Dieu, seulement Jésus peut nous apporter le bonheur, seulement Jésus peut nous apporter l'espoir. C'est vraiment pas populaire et attirant de proposer l'exclusivité de Jésus. Et ce que j'aimerais faire ce matin, en continuant dans notre série, dans le livre des Actes, c'est de tenter de répondre à quelques-unes de ces difficultés. Alors, je t'invite à rester avec nous jusqu'au bout. Si c'est, peut-être que l'évangélisation, c'est quelque chose avec lequel tu as de la difficulté. Peut-être que tu n'es pas un membre de l'Église, tu n'es pas un chrétien, tu es ici ce matin, puis peut-être qu'une des choses que tu reproches aux chrétiens, c'est qu'ils veulent toujours parler de Jésus, puis ils veulent que tout le monde croit en Jésus comme eux. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à rester pour que tu puisses voir avec nous c'est quoi le cœur qui nous anime, les chrétiens, quand on veut parler de notre foi. Si tu as de la difficulté avec l'évangélisation, tu es un enfant de Dieu, j'aimerais que tu restes ce matin pour que tu puisses voir c'est quoi quelle attitude et comment Dieu nous demande d'être une présence dans ce monde. J'aimerais ça, ensemble, on va tenter de donner une clarté, d'exposer la clarté que la Bible nous donne par rapport à l'évangélisation ce matin. Et je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles, dans Actes 4. Et on va continuer ce matin après cette histoire où Pierre et Jean ont guéri un homme, un boiteux au chapitre 3. Et après la guérison, on a vu que Pierre et Jean ont commencé à s'entretenir avec le peuple. Et là, on va voir cette partie dans l'histoire où, alors que Pierre et Jean continuaient à parler avec le peuple, eh bien, les spécialistes de la loi, les chefs du temple, ceux qui avaient le monopole de la religion à l'époque, sont venus pour arrêter les deux apôtres de partager, de propager ce message-là. Et on va lire, on va commencer par lire les quatre premiers versets. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Donc, tout d'abord, la première chose qu'il faut se dire par rapport à l'évangélisation, par rapport à cette action de partager notre foi avec les gens autour de nous, la première chose qu'on voit, c'est qu'on vit dans un monde qui est hostile à ce qu'on partage notre foi, qui est hostile au message de l'Évangile. Le monde dans lequel on vit n'est pas naturellement réceptif au message de l'Évangile. Et ce qu'on voit ce matin, c'est que ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau à notre époque. C'était le cas pour l'Église primitive. L'histoire qu'on regarde ensemble ce matin, c'est la première fois que les disciples de Jésus, depuis que Jésus est parti, qui est mort, ressuscité, qui est parti rejoindre Dieu au ciel, c'est la première fois que les disciples vont rencontrer de l'opposition. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas partager leur foi librement. Et les chefs religieux sont fâchés, ne sont pas contents que Pierre et Jean continuent à partager le message qu'ils croyaient qu'ils avaient arrêté en tuant Jésus. Ils sont fâchés parce que Pierre prêche la résurrection, puis il enseigne et proclame que Jésus-Christ est la vérité, que le peuple a besoin de se repentir et de suivre Jésus. Et pour les hommes qui sont là, ça c'est un gros problème. Parce que si le peuple se met à croire en Jésus, bien leur autorité va diminuer. Si le peuple se met à croire en Jésus, mais peut-être que la paix ou l'équilibre avec Rome, qui était le peuple qui avait l'emprise sur les Juifs, allait être défaite et ces hommes-là allaient perdre leur importance, leur pouvoir, leur responsabilité envers le peuple. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces hommes-là, jamais dans cette histoire, vont nier le fait qu'il y a eu un miracle. Ils ne disent pas, « Hey, arrêtez les gars, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de miracle, vous êtes en train de compter un mensonge. » Ils sont juste en train de dire, ils vont seulement leur dire de ne pas parler de Jésus aux autres, de ne pas partager cette nouvelle doctrine. On est dans un monde qui est hostile à l'Évangile, qui n'est pas accueillant envers le message de l'Évangile de façon naturelle. Alors, à cet égard, parfois, on a besoin d'ajuster nos attentes. Et on va voir ici que parfois, on a besoin de diminuer nos attentes et parfois, on a besoin d'augmenter nos attentes. On a besoin d'ajuster nos attentes à la baisse parce que si on s'attend que les gens devraient être réceptifs au message de l'Évangile, si on s'attend que les gens devraient penser et croire comme nous, et si on choisit de juste se tenir avec des gens qui pensent et qui croient comme nous, bien, on va être déçus. On va constamment être déçus de la non-réceptivité des gens. On va constamment être déçus de ne pas comprendre pourquoi les gens autour de nous ne comprennent pas ce qu'on est en train de leur dire. Certainement qu'on doit accepter qu'on est rendu dans une époque, dans une ère où les gens ne connaissent simplement plus Jésus. Je suis allé aux États-Unis il y a quelques années, en Caroline du Nord. Et j'étais dans les restaurants, dans les cafés, je me promenais, puis à chaque endroit où j'allais, je voyais des gens lire la Bible, prier, parler de Jésus. Puis à un moment donné, je suis allé un soir dans un restaurant, puis on parlait avec la serveuse, et puis elle se disait pas chrétienne, mais elle savait que c'était quoi la religion, elle connaissait l'Évangile, elle savait qu'il y avait des baptistes, qu'il y avait des pentecôtistes, qu'il y avait différentes dénominations, elle nous partageait tout ça. Mais elle n'était pas chrétienne. Puis moi, j'étais là, puis je me dis, aïe, je suis comme dans un endroit qui ressemble vraiment à l'endroit où je vis, mais les gens où je vis ne connaissent plus Jésus, ne savent rien à propos de Jésus, ou presque. Alors parfois, on est étonné de ça, et on est amer, et on se dit, ah, les gens ne veulent pas connaître Jésus, alors ça ne donne rien, les gens sont hostiles. Parfois, il faut juste revoir nos attentes à la baisse et se rappeler qu'on n'est pas dans un monde qui est accueillant envers l'Évangile. Et que par nature pécheresse, chacun d'entre nous, pas les non-chrétiens versus les chrétiens, non, tout le monde, par nature pécheresse, notre nature avant de connaître Jésus, on est tous convaincus qu'on est les maîtres de notre bien-être. Que c'est nous qui décide ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. On est tous convaincus qu'on n'a pas besoin de rien à l'extérieur de nous pour nous remplir. Du moins, on est convaincus qu'on doit choisir et que c'est à nous de choisir ce qui est meilleur pour nous. Et ça, ce n'est pas juste vrai pour la personne à qui tu partages l'Évangile, qui ne croit pas le message que tu lui partages. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Parce que l'affaire avec le péché, c'est qu'on est séparés de Dieu et on a tous dit... On ne veut rien savoir de Dieu. On a tous été hostiles à l'Évangile à un moment donné ou un autre dans nos vies. Donc, la réponse de quelqu'un qui dit non à Jésus, c'est la réponse normale que chaque être humain devrait donner à Jésus. Donc, on ne doit pas partager l'Évangile avec l'attente qu'on va convaincre les gens. On ne peut pas convaincre les gens. Ce n'est pas la motivation que Dieu devrait nous donner. Et pour quelqu'un qui aime avoir des résultats, quelqu'un qui aime qu'on lui dise hey, « c'est beau, tu as fait une bonne job », bien, des fois, c'est difficile de dire « Hey, je suis en relation avec quelqu'un, je partage l'Évangile, la personne ne veut rien savoir, peut-être que c'est ton enfant depuis des années, un ami, un collègue, quelqu'un autour de toi, puis là, tu ne vois pas de résultats, puis tu es découragé. » Mais on ne peut pas et on ne doit pas partager l'Évangile avec l'attente qu'on va convaincre les gens. On ne peut pas partager l'Évangile seulement quand on est convaincu que la situation va être favorable. Dans le sens que seulement quand c'est des gens que je sais qui vont répondre, qui vont être favorables à entendre le message, ce n'est pas toujours le cas. On ne peut pas vivre avec cette attente que les gens pensent comme nous. John Tyson, un pasteur new-yorkais qui a écrit, qui a fait le cours de Missional Life, a dit « Nous sommes certainement dans un monde qui est loin d'être favorable au message de Jésus crucifié pour nos péchés. » Mais on n'a pas besoin de vivre dans un monde chrétien pour partager l'Évangile, pour partager notre foi. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est simple au bout comme citation, mais c'est vraiment intéressant parce que ça nous rappelle que c'est pas, nous n'avons pas la responsabilité sur la réponse des autres. Nous avons seulement la responsabilité d'obéir à ce que Dieu nous demande. Mais parfois, on a besoin d'ajuster nos attentes à la baisse, mais parfois, on a besoin d'ajuster nos attentes à la hausse. Et on le voit ici au verset 4, parce que malgré le fait que les chefs vont arrêter les deux apôtres, malgré le fait qu'ils sont hostiles à l'Évangile, malgré le fait qu'ils ne veulent pas qu'on partage l'Évangile, qu'ils partagent l'Évangile, la parole ici nous dit que les hommes ont augmenté à 5000 hommes qui ont cru au message. On a vu à la Pentecôte qu'il y avait 3000 personnes, et là, on est rendu à 5000. Et ça peut contenir encore plus les femmes, les enfants. Tout ce que les actes nous rappellent, c'est que malgré l'oppression et l'hostilité de partager le message de l'Évangile, le message de l'Évangile continue de progresser et de grandir dans le cœur des gens et dans la vie, dans le monde entier. Donc, j'aimerais qu'on regarde par l'exemple de Pierre, du discours qu'il va apporter ici, c'est son attitude, la manière qu'il va présenter sa foi, donc le comment, son attitude et avec quelle puissance il partage l'Évangile. Le passage nous révèle toutes ces choses-là. Et c'est vraiment intéressant de voir que Pierre débute son discours, on peut le voir au verset 8. On voit que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus avait dit à ses disciples qu'un jour vous allez vivre de l'oppression, qu'un jour vous allez même vous retrouver devant les chefs de la religion, les chefs du peuple. Puis il leur a dit, essayez pas de formuler votre défense à ce moment-là parce qu'au moment venu, je vais être avec vous et je vais mettre les mots que vous allez devoir leur dire. Et le passage commence avec le fait que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Dieu est avec Pierre dans ce moment difficile, dans ce moment présent où il est devant les chefs religieux, il doit répondre de ses gestes. Donc Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël. » C'est vraiment intéressant de voir ici que Pierre est face à ses adversaires, des gens qui ne pensent pas comme lui, des gens qui veulent l'arrêter, en fait, qui n'ont vraiment pas une bonne attitude envers eux. Et malgré ça, Pierre parle avec respect et respecte le titre de ces personnes-là. Pierre parle avec respect et reconnaît l'autorité de ces hommes-là. Pierre ne s'est pas donné le droit de manquer de respect ou de canceller ces personnes-là de sa vie puis de dire « Hey, vous ne pensez pas comme moi, ça ne donne pas rien que je vous parle, puis je m'en vais faire d'autres choses, ça ne donne rien. » Non, il a parlé, il a adressé ces hommes-là avec respect et il a voulu leur donner une réponse. « Chef du peuple ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. » Vous savez, Pierre qui a écrit l'Épître de Pierre, dans 1 Pierre 3, 15 à 17, on peut lire exactement ce que Pierre est en train de vivre dans Acte 4. Pierre 3, 15, 17 dit, « Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous fassiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Ce que Pierre est en train de nous dire ici, c'est qu'il nous invite à considérer toute notre vie au complet comme étant une vie où on est en train de présenter l'Évangile en parole et en action. Pierre est en train de dire, dans le fond, lorsque Pierre dit, puis il le dit au boiteux dans Acte 3, « On n'a pas d'argent, mais ce qu'on a, on veut te le donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Pierre est en train de dire, et ici dans 1 Pierre, ce qu'on voit constamment, c'est que l'importance de vivre une vie où on fait le bien, l'importance de vivre une vie où on considère les autres et on bénit les autres, l'importance de constamment faire le bien, peu importe que la situation soit favorable ou non, d'aimer ceux qui nous aiment, mais aussi d'aimer nos ennemis, d'être attentif aux besoins autour de nous et d'être la présence de Dieu dans le monde pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et Pierre, c'est ce qu'il va dire aux chefs religieux ici. On nous interroge pour un bienfait qu'on a fait et vous voulez savoir comment cet infirme a été guéri. C'est au nom de Jésus qu'il va dire qu'on a fait ce bienfait. Et Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, quand on considère ce désir à partager notre foi. C'est pas comme si on vivait notre vie, on travaille, on va à l'école, on mange, on vient à l'église, et là, oups, là j'évangélise, là je fais ci, là je fais ça. Puis souvent, on a cette tendance à compartimenter nos vies. Mais Jésus nous a invités à être dans un monde où toute notre vie est le champ missionnaire que Dieu nous a donné. Et Dieu nous appelle à vivre des vies qui vont susciter des questions autour de nous. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui vous a fait ça? Comment ce gars-là a pu être guéri? Pourquoi tu m'amènes un repas? Pourquoi tu me fais du bien alors que je souffre? Pourquoi tu continues à m'appeler malgré que c'est clair qu'on ne pense pas pareil sur une situation? Dieu nous appelle à vivre des vies qui suscitent des questions. Et à ce moment-là, soyons prêts à répondre de l'espérance que nous avons. Soyons prêts à répondre aux gens et à partager le message de l'Évangile. Parce qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire le bien autour de nous. Pas de convaincre les gens, pas de leur imposer quoi que ce soit, pas de se séparer de ceux qui ne pensent pas comme nous puis de les mépriser. Non, l'appel de Dieu dans nos vies, c'est de constamment faire le bien. Dans nos rythmes du quotidien, que ce soit de bénir un voisin, d'apporter un repas, de tondre le gazon, de rentrer en relation avec les gens. Que ce soit d'inviter quelqu'un à manger, de passer du temps avec les gens pour leur dire à quel point ils sont importants pour nous. Et à ce moment-là, soyons prêts à répondre. Et c'est ce que Pierre fait ici. Pierre va dire, on continue la lecture. On nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée pour vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Pierre prend le temps de répondre à ces hommes et il va leur dire une bonne nouvelle. Mais pour qu'il y ait une bonne nouvelle, il doit y avoir une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est toujours une réponse à une mauvaise nouvelle. Et Pierre va leur dire, tu sais, là, ce Jésus-là que vous avez crucifié, que vous avez tué, qui est supposé d'être mort, ce Jésus qui est mort, bien, je vous annonce qu'il est vivant. Puis je vous annonce que s'il est vivant, là, bien, il y a la puissance, imaginez-vous, de revenir de la mort à la vie, mais il y a aussi la puissance de guérir ce boiteux. Donc, Pierre est en train d'inviter ces hommes, littéralement ceux qui ont crucifier Jésus, à se repentir de leur hostilité envers Jésus et de voir l'évidence que Jésus est vivant et que Jésus est tout-puissant et que Jésus a cette possibilité-là de sauver des vies. Vous êtes coupable d'avoir tué Jésus. C'est peut-être pas une bonne phrase à dire à quelqu'un aujourd'hui. Hey, t'es coupable d'avoir tué Jésus, tu veux te savoir c'est quoi la bonne nouvelle? Mais peut-être que, par exemple, on a besoin d'expliquer aux gens pourquoi Jésus est allé sur la croix. Et si Jésus est allé sur la croix, c'est parce que nous avons rejeté Jésus, parce que nous nous sommes rebellés contre Dieu et parce qu'on a complètement abandonné Dieu et on a décidé pour nous-mêmes ce qui était bon à la place de Dieu. Et on voit un monde rempli de souffrance, un monde rempli de rébellion, un monde où il manque complètement d'amour les uns envers les autres, un monde où on voit qu'il ne fait pas toujours bon y vivre. Eh bien, ça, c'est la conséquence du péché. C'est le péché dans le monde qui a fait ça. C'est notre rébellion contre Dieu parce qu'on n'a pas écouté ce que Dieu disait qui était bon. Alors, qui a mis Jésus sur la croix? Bien, c'est toi et moi. Et Pierre raconte cette mauvaise nouvelle-là, mais Jésus est vivant, Jésus sauve et Jésus guérit. Et cette action-là que vous avez été témoin, c'est pour que vous soyez témoin que Jésus a la puissance de faire ce qu'il dit. Jésus est ressuscité. Et Pierre va continuer et il va dire qu'il n'y a personne qui a le pouvoir de sauver si ce n'est que Jésus. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, comme j'ai dit en introduction, ce n'est pas populaire de parler de l'exclusivité de Jésus, de seulement Jésus peut nous sauver. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a personne sur la terre et dans le ciel qui a les moyens de pourvoir le salut, de te donner un espoir qui va durer pour toujours, de trouver une solution à tous les problèmes que tu vois dans le monde. Il n'y a rien ni personne autre que Jésus qui peut faire ça. C'est une déclaration de l'exclusivité du salut en Jésus. Sa mort, sa résurrection et le fait qu'il est allé rejoindre son Dieu, qu'il est allé rejoindre Dieu et qu'il est aujourd'hui à la droite de Dieu, son autorité font de lui le seul sauveur parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut se dire avoir accompli toutes ces choses-là, d'avoir vaincu la mort, d'avoir pris la place de tous les pécheurs du monde qui allaient croire en lui sur la croix. L'exclusivité et l'œuvre de Jésus, ce n'est pas populaire aujourd'hui. C'est un affront à la diversité religieuse, à la pluralité. Et souvent, c'est vu comme la cause de l'emprise de la religion et de l'imposition de la religion à travers l'histoire. On a peur que si on parle de l'exclusivité du salut en Jésus, qu'on va se mettre à imposer, et parce que ça s'est fait, et parce que l'Église a été coupable de ça par moments. D'imposer sa religion, de ne pas respecter ceux qui ne croient pas. Mais quand on impose la religion, c'est là qu'on commence à causer des dommages. C'est pas le problème n'est pas que Jésus est le seul qui a le pouvoir de transformer ta vie, mais c'est quand on commence à imposer nos croyances aux autres. Les apôtres font un appel ici aux hommes religieux à qui ils s'adressent, mais ils vont en tout temps, ils ne vont pas leur imposer quoi que ce soit. Ils font un appel. Il leur dit, bien, voici ce qui va se passer si tu ne réponds pas à cet appel-là. Dieu nous offre la vie éternelle avec lui. Dieu nous offre de l'espoir, un espoir qui va durer pour toujours. Mais de l'autre côté, si tu ne crois pas, si tu ne mets pas ta confiance en Jésus, tu vas être séparé de Dieu pour l'éternité. Et la Bible nous parle de que ça va être la pire chose qu'un être humain peut expérimenter. Ce qu'on peut voir dans ce passage, c'est encourageant parce que Pierre et Jean, se font dire « Partagez plus votre foi, vous n'avez pas le droit de faire ça, laissez faire, on ne veut plus jamais vous entendre. Puis la prochaine fois que vous allez le faire, ça va peut-être être pire que juste un avertissement. » Parce que vous savez, les hommes religieux avaient vu le miracle, ils voyaient que le peuple était content de ce miracle-là, ils rendaient gloire à Dieu pour ce miracle-là, ils ne voyaient pas comment ils pouvaient punir Pierre et Jean. Mais on dit « La prochaine fois que vous allez faire ça, là, ça va être plus grave. » Et la réponse de Pierre et Jean, ils ont dit, on peut lire au verset 20, « Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Vous savez, la différence entre les apôtres et les hommes religieux, c'est que quand ils ont vu et entendu la puissance de Dieu, ils ont cru. Et cette puissance les a transformés. Et ça a transformé complètement leur vie. Et je vais demander à l'équipe de louanges de venir me rejoindre. Ils ont été témoins. Et ce témoignage-là de Jésus qui est mort et qui est ressuscité a transformé leur vie. Alors que pour les hommes religieux qui ont été témoins de la même puissance, ils n'ont pas vu et ils n'ont pas entendu. Et c'est le seul moyen qu'on peut être sauvé, c'est si on voit et on entend réellement Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Jésus est l'expérience qui change une vie. les hommes étaient étonnés de voir que c'était les apôtres qui leur parlaient avec autant d'assurance et de conviction, parce que c'était des hommes du peuple qui n'avaient pas reçu d'instructions religieuses comme eux avaient reçu. Mais Jésus, Dieu, était avec eux. Parfois, on regarde le Nouveau Testament, on regarde les apôtres, on regarde Paul, on regarde Pierre, puis on dit, hey, si j'étais courageux comme lui, si j'étais instruit comme lui, si j'étais... Vous savez, on a la même puissance qui est en nous, qui était en Pierre à ce moment-là. En fait, l'exemple des apôtres est un exemple pour nous parce que ces hommes étaient des hommes ordinaires, mais qui avaient un Dieu extraordinaire en eux qui les accompagnait à partager l'amour de Jésus. Dieu ne nous appelle pas à donner plus que ce qu'on a reçu. On a reçu l'amour de Dieu, Dieu nous appelle à aimer notre prochain. Dieu nous appelle à partager comment cet amour a transformé nos vies. Parce que Jésus est l'expérience qui change une vie. Quand on fait l'expérience du salut en Jésus, Jésus change notre vie. Jésus est l'expérience qui change une vie. Vous savez, je vous partageais ce rêve d'être en mission dans mon quartier, d'être en relation avec les gens autour de moi. Parfois, pour moi, des actes de juste inviter quelqu'un pour un repas, quand c'est permis, évidemment, c'est juste, là, c'était difficile pour moi. Hey, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais parler? Est-ce que je vais parler de Dieu ce soir ou non? Est-ce que je suis fidèle si je le fais ou si je le fais? Je me posais toutes sortes de questions, toutes sortes de peurs. Est-ce que les gens vont être intéressés de passer du temps avec moi? Toutes sortes de craintes. Mais du moment qu'on sort de notre zone de confort et qu'on se met à aimer les gens, qu'on se met à accueillir les gens, ce n'est pas à propos de moi et à propos de ce que je vais faire et de ce que je vais bien faire, mais c'est à propos de Dieu qui m'a aimé et qui veut que j'aime les autres en retour. La puissance de Dieu a un impact dans nos vies. Frères et sœurs, j'aimerais nous encourager ce matin à ne pas perdre espoir dans la puissance de Dieu qui continue à sauver des vies. Dieu fait des choses extraordinaires en ce moment même avec l'Église Le Sentier. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui partage son témoignage de baptême, ça c'était un miracle. En 2020, Dieu sauve encore. Dieu continue à faire cette œuvre dans nos vies et dans le monde. Nos yeux ne voient pas toujours cette œuvre. On est prompt à se décourager. Mais Dieu continue à faire son œuvre dans ce monde parce que c'est sa puissance qui se déploie. Dieu nous demande simplement de donner ce qu'on a reçu, de partager la différence qu'il a fait dans nos vies. Si je te posais la question, pourquoi est-ce que tu aimes Jésus? Parfois, c'est seulement cette réponse-là. Pourquoi tu crois que Jésus peut prendre soin de toi quand ça va mal, quand tu te chicanes avec ton conjoint, ta conjointe? Pourquoi tu penses que Jésus fait une différence dans ta vie à ce moment-là? Peut-être que c'est juste ça que tu peux partager avec quelqu'un autour de toi. On a besoin d'apprendre à ne pas voir l'évangélisation comme la chose la plus difficile ou la plus impossible ou qui est le plus hors de notre portée en tant que chrétien, mais de le voir comme une réponse à cause de la puissance de Dieu qui est en nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se remplir de Dieu par la prière, la parole de Dieu, la communion les uns avec les autres, pour pouvoir constamment se rappeler que Jésus, il est grand, que Jésus, il est plus puissant que le monde dans lequel je vis, que Jésus est plus puissant que l'impossibilité qu'on pense, nous, que nos voisins ou les gens autour de nous vont venir à l'Évangile et croire en Jésus. Jésus nous demande simplement d'aimer. Et lui, il fait le travail gracieux de se révéler aux gens autour de nous. Alors, gardons courage. Prions pour ces personnes-là. Je t'invite à prendre une personne et prie pour cette personne que tu aimes. Pose-toi la question ce matin, c'est quoi le prochain pas pour moi? Et je vais aller dans la prière, je vais prier pour nous et que Dieu puisse nous démontrer sa puissance cette semaine, Église Le Sentier. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité et merci pour ton salut. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Et Seigneur, qu'on puisse être convaincu que c'est la plus grande preuve d'amour qu'on peut donner à quelqu'un qui est de voir comment on peut apprendre à témoigner de notre foi aux autres autour de nous. Enlève notre peur de déranger. Enlève notre crainte d'arriver sur nos gros sabots montre-nous comment on peut le faire humblement et avec amour. Donne-nous un amour tellement grand pour les autres que nos actions, nos activités en tant que chrétien ne paraissent pas comme quelque chose qu'on fait seulement pour avoir ta faveur ou seulement parce qu'on est obligé de le faire, mais ça va paraître que c'est par amour pour toi qu'on le fait, Jésus, et par amour pour les autres qu'on est en relation avec eux. Je te prie, Seigneur, que l'Église Le Sentier, on puisse saturer notre ville, tous nos quartiers, tous les endroits où on travaille, tous les endroits où on joue, où on s'amuse, où on va porter nos enfants. Que ce soit, Seigneur, qu'on puisse être la présence de Dieu dans le monde, là où nous sommes. Et montre-nous cette semaine ta puissance dans nos relations, dans nos vies. Donne-nous la joie de t'appartenir. Et Seigneur, continue d'élever notre foi et de nous rappeler que tu es un Dieu puissant qui agit. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.